nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Qu'elle s'endort. Elle retourne. Elle sort de son travail vers les 21h30. Elle marche d'un bon pas parce qu'elle est fatiguée. La rue est déserte. Tout à coup, apparaît une voiture noire. Elle la dépasse. S'est arrêtée juste en face d'elle. Et la porte arrière s'ouvre. Françoise passe devant.
Mademoiselle.
Elle s'arrête et se retourne. Voit de la portière une femme habillée de noir.
Vous êtes bien, mademoiselle Françoise Lande.
Oui, madame, pourquoi?
Parce que mademoiselle, nous aimerions, c'est que vous cessiez de manigancer contre M. Gilbert Tremblant.
Et en quoi cela vous regarde-t-il?
Cela nous regarde, parce que vous nous ruinez, vous nous suivez. Personne ne doit suivre, ne doit nuire à Gilbert Tremblant. Et pourquoi vous lui voulez du mal?
Est-ce qu'il a fait du mal à ma mère?
Qui était votre mère?
Ma mère était infirmière.
Où a eu lieu l'accouchement?
Elle a assisté à l'accouchement. Elle savait tout. Et puis, vous l'avez?
Il le fallait pour pas faire, pour ne pas faire autrement. Il faut comprendre que ce sont des choses supérieures. Et nous avons.
Tous les deux. Moi aussi j'ai des choses supérieures, comme celle de venger ma mère et d'empêcher que les aurores reviennent.
Rien ne vous fera changer d'avis.
Non, rien.
C'est dommage, mademoiselle. Tant pis pour vous. Ce que nous voulons, ce n'est pas faire le mal, mais apporter le bien. Elle lui dit,
le bien,
n'importe quel prix. Non, je vous déteste. Ma mère aussi vous détestait. Et je la vengerai. Alors, ce sera la guerre. Tant pis. La femme referme la vitre. Et la voiture s'est éloignée. Françoise l'a vue disparaître dans la nuit. Elle continue sa marche, décidée. Elle entre dans son allée. Une allée sombre et triste. Regarde dans sa boîte aux lettres. Courrier. Et monte à l'étage. Elle entre chez elle. Éclaire, soupire et ferme la porte. Elle va à son séjour. Lire le courrier. Elle s'assoit. Assise dans la pièce. Et soupire encore. Et dit tout haut. Ils me font un peu peur. Mais je dévoilerai tout. Le monde entier saura qui ils sont et qui est réellement ce Gilbert, ce petit pédant. S'il savait qui il est réellement, l'ADN ne trompe pas. Si on est bon, on est bon. Et lui, il est pourri, mort. Les jours passent. Un soir, elle se dirige vers chez elle. La rue est déserte. À 7h21h30, elle marche dans son corps, entre dans son allée. Va aux boîtes aux lettres. Prend son courrier. Et se retourne. Elle voit qui était derrière elle un homme grand, mince, châtain et à barbine noire. Il lui dit, mais oui, c'est nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous laisser faire. Alors, nous allons nous occuper de vous. Et lui dit, je ne me laisserai pas faire. Au secours, au secours. L'homme la gifle et lui dit, c'est indigne de vous, ça. Vous savez que ce que vous risquiez et vous payez pas. Vous êtes jeune et en bonne santé. Tout ça, ça va servir à des pièces détachées, des pièces de rechange. Il le regarde droit dans les yeux et veut s'en aller. Il la tient fermement par le bras. Elle crie, au secours, au secours, au secours. Il lui dit, vous pouvez crier autant que vous voudrez. Il y a tellement de cris, des au secours à la télé et dans la rue, la nuit, que les gens ne font même plus attention. Allez, avec nous. Elle lui mord le bras. Il la lâche. Elle se met à courir vers la sortie. Il la rattrape. La renverse à terre. Et d'un revers de la main, il la fait tourner sur le bas. Une fois qu'elle est tombée à terre, sur le ventre, il tombe sur elle. Elle a mal au dos. Elle crie, elle hurle, au secours, au secours, au secours, au secours, elle gigote. Au secours, au secours. Et il la pique dans le dos. Elle ne bouge plus. Tellement la piqûre a été forte, une piqûre dans la colonne vertébrale qui l'a paralysée en un rien de temps. Il sent qu'elle ne peut plus bouger. Au secours! Au secours! La piqûre qu'il lui a donnée ne l'a pas endormie. Elle peut encore parler et rester consciente. Il se relève. L'emprend dans ses bras. L'allée, il suit le couloir, puis ils sortent de l'allée. Amène à une voiture noire, d'une main. Il ouvre la portière pour la mettre allongée sur le siège à l'arrière. Elle est comme paralysée, ne peut pas bouger ni parler. L'homme entre dans la voiture et la met en marche. Il lui dit, nous allons faire un petit voyage. Vous allez connaître le laboratoire, très perfectionné. Elle est furieuse, apeurée. Il lui dit, quelle idée avez-vous de nous attaquer à nous? Nous sommes toujours les plus forts. Toujours les plus forts. Nous devenons aussi importants qu'avant je ne tout. Nous sommes de partout. Au gouvernement, à la justice, police, santé, industrie, communication, éducation, armée. Nous avons tissé une vraie toile d'araignée. Personne ne peut faire quelque chose contre nous. Vous devez comprendre que nous sommes les plus forts. L'élu est intouchable. Il est protégé par tellement de monde. Quiconque nous attaquerait, nous accuserait de quoi que ce soit, serait bâillonné, ou on le prendrait pour un fou. Vous, on aurait pu vous mettre dans une maison de santé, mais vous êtes trop près de l'élu. Il vaut mieux vous éliminer, comme on l'a fait pour beaucoup d'autres. Le trajet se poursuit. Quitte Paris pour aller dans la banlieue, au laboratoire secret Rica Pontois. Après une heure de route, ils sont arrivés. L'homme téléphone à la clinique. Allô, nous arrivons. Le colis 520 arrive à destination. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée. Il y a deux hommes en blouse blanche et un brancard. Les chauffeurs sont de voiture. Il va à l'arrière de la voiture. Voilà le colis 520. On ouvre la porte. Les brancardiers prennent la pauvre Françoise, toujours paralysée, et la dépose dans le brancard pour l'amener au laboratoire. Ils entrent. Dans le laboratoire. Elle voit que les murs du plafond et le blanc des murs.
et entend le bruit des roues du brancard. Il longe le couloir, puis une porte s'ouvre à deux battants. Peinture verte, pâle, lumière blanche. On l'entoure. Des hommes, des femmes, en chemise blanche et masque. On les pose sur une table d'opération. Un homme dit, 520, premier choix, pas d'anesthésie. Le sang doit couler, gicler. Il faut qu'elle crie, déshabillez-la. Bille, des femmes la touchent, elle ne peut bouger, elle est comme paralysée. Elle se retrouve nue. Elle est dessous une grande lumière blanche. Elle n'y voit presque plus rien, ça l'éblouit. Avec effroi, nous allons la dépecer en lui ouvrant le thorax pour commencer, pour lui prendre le corps. Préparez les récipients. Une voix dit,
on devrait lui couper la tête pour qu'elle ne souffre pas trop.
Non, la tête en dernier, parce que il faut qu'elle reste en état de marche. Il faut que tous les centres nerveux restent en état de marche le plus longtemps possible. Allez, au travail. Françoise voit s'approcher de son corps une petite scie à ruban. Elle a tellement peur, quand ce cerveau se remet à marcher, normalement, et elle crie.
Non pas, non pas, non pas, non pas, non pas.
La scie s'approche de plus en plus
non pas,
de la chair.
Non pas, non pas, non pas.
Comme c'est une scie à dents, qu'elle ne coupe pas franc, cela déchire la chair au lieu de la couper franc. Ça fait plus mal.
Non pas, non pas, non pas, non pas, non pas, non pas.
Elle hurle de peur.
Non pas.
Elle hurle de peur.
Non pas. Non pas.
Le sang gicle sur son corps. Même sur son visage, il n'y voit plus rien, mais continue à entendre le bruit du moteur de la scie.
Non pas. Non pas.
Ce craquement dans la chair.
Non pas.
Dans les os. Elle hurle. Elle hurle.
Non pas. Non pas. Non pas.
Elle entend.
Non pas.
Récupérez donc le sang. Nom de Dieu,
non pas.
On va en avoir besoin.
Non pas.
C'est pire qu'un cochon.
Non pas. Non pas. Non pas. Non pas. Non pas.
Non pas.
Non pas. Non pas. Non pas. Non pas. Non pas. Non pas. Non pas. Non pas.
Elle sent qu'on tripote dans sa poitrine, qu'on tire, qu'on coupe. Elle ne sait plus. Elle hurle. Elle ne hurle plus. Elle a des râles.
Le ciel marqué. De souffle. D'oxygène. Elle entend du bruit à l'intérieur de sa poitrine, puis le noir, puis... Plus rien, elle est morte.
Compresse.
On lui enlève le corps.
Si.
Les veines se sont vidées. Le cerveau plus irrigué. Le corps a été déposé dans une boîte en métal. Compresse. Pour être congelé. Les poumons aussi.
Si.
Ensuite, on lui prend les autres organes et on lui enlève le cerveau, le sang et une partie de la peau sera gardée.
Compresse.
Le reste sera mis en bouillie.
Si.
Pour les conserves pour chiens.
Compresse. Compresse.
Les professeurs et les aides se lavent les mains et se déshabillent. Le professeur dit : belle opération, ça va réussir à conserver tous les organes. Mais la prochaine fois, il faudra se garder le corps, le prendre en dernier. Pour laisser irriguer le sang dans les organes, tant que l'on n'a pas fini de les enlever, pour éviter qu'ils se détériorent. Beau travail. Thank you.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.